Chapitre 29. L'heure la plus sombre de la nuit avant les rayons du jour radieux. Le 10 janvier 1847, le grand salon de l'évêché de Montréal était rempli d'une foule de prêtres à qui l'évêque dit en substance : Je vous ai fait venir ici pour vous demander votre avis sur un sujet fort important et fort triste. Tous, vous connaissez les efforts faits récemment par les protestants pour détruire la foi de notre cher peuple. D'abord, nos compatriotes éprouvaient une telle horreur pour leurs œuvres perfides et souterraines que nous pensions n'avoir rien à craindre de ces misérables apôtres de l'erreur et de l'irreligion. Mais aujourd'hui, un nuage noir et menaçant apparaît au cœur même de l'une de nos paroisses les plus intéressantes. Je viens d'apprendre que plus de 50 garçons et filles, tous enfants de nos familles catholiques, sont entrés au collège de la Pointe aux Trembles, à la porte de Montréal. C'était pour faire appel à vos lumières sur les meilleurs moyens de neutraliser les premiers efforts de ces hérétiques que je vous ai invité à venir ici aujourd'hui. Comme je ne travaille que depuis quelques mois dans le diocèse de Montréal, je sentis qu'il était de mon devoir de laisser mes confrères plus anciens parler et je gardais le silence, écoutant ce qui se disait, pendant plus d'une heure. Alors l'évêque me dit « Cher Père Chiniki, bien que vous n'ayez été parmi nous que quelques mois, vous avez travaillé 4 ans dans la ville de Québec, 4 ans dans la grande paroisse de Beauport et aussi longtemps dans la paroisse encore plus importante de Kamouraska. Dans chacun de ces endroits, je sais que vous avez rencontré des protestants et j'ai même appris de l'évêque de Québec que vous avez travaillé avec un tel zèle et un tel succès parmi ces hérétiques que vous en avez persuadé 93 de renoncer à leurs erreurs et de se soumettre à notre Sainte Église. Nous voulons avoir le bénéfice de votre expérience. Nous aimerions à connaître votre opinion sur la meilleure manière de paralyser les efforts des protestants dans leur entreprise diabolique de répandre leurs erreurs parmi notre cher peuple catholique. Bien que cette demande me prit par surprise, elle me fit plaisir. Aucune expression ne saurait donner une idée des préjugés, du mépris, de la haine que mes études théologiques, aussi bien que ma perversité naturelle, avaient accumulé dans mon esprit contre les protestants depuis le jour où j'entrais au collège de Nicolet jusqu'à cette heure du 10 janvier 1847. J'ai honte de le dire, mais je pensais réellement qu'il est de mon devoir de confesser que je haïssais d'une haine suprême tous les Anglais et toutes les Anglaises pour la simple raison qu'ils étaient protestants. Ce fut sous l'empire de ces sentiments que je rappelais à l'évêque que les dangers qui menaçaient notre cher pays et notre Sainte Église étaient plus grands que beaucoup ne le soupçonnaient. J'ajoutais, c'est une guerre à mort entre ces infâmes hérétiques et notre Sainte Église. C'est un combat corps à corps que chacun de nous aura livré contre ces soldats de l'enfer si nous voulons sauver notre cher pays. Dans tous ces conciles et par l'entremise de tous ces théologiens, notre Sainte Église ne nous a-t-elle pas défendu d'avoir aucune communication avec les hérétiques ? Ne nous a-t-elle pas dit que nous devons en agir avec eux comme avec les loups qui traversent nos champs pour dévorer nos agneaux et nos brebis ? Notre droit canon ne nous enseigne-t-il pas que ce n'est pas un péché de les tuer quand nous en avons les moyens, le pouvoir et l'occasion ? Que puis-je dire de nos devoirs et de nos droits par rapport à ces misérables hérétiques que vous ne sachiez pas ? Que chacun de vous écoute la voix de la raison, aussi bien que la voix de notre Église, touchant la meilleure manière de sauver notre chère population catholique de la gueule de ces lions ravissants. Quant à moi, je vous dirai, laissez-moi aller prêcher 2 ou 3 jours au peuple de la Pointe aux Trembles. Donnez-moi carte blanche d'agir et de combattre à ma façon ces misérables ambassadeurs de l'enfer avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie. Je vous donnerai un bon rapport de mes efforts contre eux. J'ai l'espoir qu'après avoir croisé le fer pendant 2 ou 3 jours avec ces ignorants et fanatiques sectateurs de Luther et de Calvin, nous n'aurons plus rien à craindre de leur part. Mon bref discours fut accueilli par les applaudissements de toute l'assemblée. Après quelques mots d'approbation, l'évêque Bourget me dit « Allez et restez non seulement 3 jours, mais beaucoup plus longtemps, si vous le désirez, pour confondre et pulvériser ces hérétiques. Nous prierons la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, le saint patron du Canada, de vous assister. Mais soyez prudent, ne vous exposez pas de manière à tomber sous le coup de la loi civile. N'oubliez pas que notre malheur, c'est d'être un peuple conquis et gouverné par la protestante Angleterre et que nous n'avons à attendre ni impartialité ni justice de la part de ces hérétiques. » Une semaine plus tard, j'ai l'hôte du curé de la Pointe-aux-Trembles qui, à la demande de l'évêque, m'avait invité à donner à son troupeau, pendant 3 jours, une série de conférences contre les protestants. Pendant les 3 jours suivants, l'église de la Pointe-aux-Trembles fut bondée. Nous eûmes non seulement les fidèles de la paroisse, mais encore les catholiques des paroisses voisines qui voulaient savoir ce que j'avais à dire contre les Suisses, comme on avait l'habitude de nommer les premiers Canadiens français protestants, probablement parce que leurs premiers évangélistes étaient Suisses. Ma mémoire et mon esprit étaient remplis de tous les mensonges ridicules, abominables et perfides, publiés contre Luther, Calvin, Zwingli, etc., et contre tous ceux qui avaient accepté leur réforme. Quels pouvaient être les sentiments de mes pauvres compatriotes après avoir entendu pendant 3 jours ces horribles mensonges historiques débités avec un zèle brûlant par un prêtre en qui ils avaient confiance? Le dirais-je? Oui. Le diable avait réellement pris possession de mon cœur. Je ne respirais que haine, vengeance et mort contre ces humbles ministres de l'Évangile sans défense. J'avais espoir de rendre le sol si brûlant sous leurs pieds qu'ils ne pourraient rester plus longtemps dans notre pays. Mon dernier discours était à peine fini, le 3e jour, que je vis 5 ou 6 de ces humbles et zélés ministres de l'Évangile et colporteurs qui avaient patiemment et bravement assisté à toutes mes conférences, la Bible à la main, venir au devant de moi pour me défier d'avoir une discussion publique avec eux, promettant de me réfuter devant mes co-religionnaires. Je fus au comble de la joie quand je les entendis me défier à une discussion publique. C'était précisément le piège dans lequel j'avais espéré qu'ils tomberaient. Au lieu d'accepter le défi, je me tournai vers la foule qui venait justement de sortir de l'église et lui dis « Ne voyez-vous pas ces misérables hérétiques qui viennent nous défier et nous insulter, vous et moi, à la porte même de votre église ? Pourquoi ne leur donnez-vous pas une leçon qu'ils n'oublieront jamais ?» Un désir évidemment inspiré par l'enfer était entré dans mon cœur en ce moment le plus sombre de ma vie. Je n'aime pas l'avouer, mais il le faut. Le lecteur intelligent comprend que mon intention était de les faire battre si cruellement qu'ils en mourraient sous le coup ou qu'après un pareil traitement, ils s'enfuiraient de la localité pour n'y jamais revenir. Mon intention cruelle et lâche fut si bien comprise de la foule que les paroles étaient à peine tombées de mes lèvres que 40 ou 50 jeunes gens se jetèrent comme des tigres furieux sur ces hommes sans défense et les frappèrent sans merci. En un moment, leurs habits furent mis en lambeaux et leurs corps meurtris et sanglants roulaient sur la neige épaisse de 2 ou 3 pieds. Bientôt, elle fut rougie du sang de plusieurs d'entre eux. D'un mot de mes lèvres ou d'un mouvement de mon petit doigt, j'aurais pu mettre fin à cet horrible spectacle. Mais j'étais un vrai et dévoué prêtre de Rome. Le sang de ces hérétiques était la chose la plus agréable que j'ai jamais vue. Je me disais en moi-même, sûrement, s'ils ne sont pas tués, ils s'enfuiront pour ne jamais revenir. Très probablement, ils auraient été tués là si le Dieu de l'Évangile n'était pas venu au secours de ces héroïques messagers. Un noble fermier canadien et catholique romain, ému de compassion à la vue de l'horrible spectacle qu'il avait sous les yeux, s'écria « C'est une honte de battre aussi cruellement des hommes sans défense. Je ne puis supporter cela. » Alors, prompt comme l'éclair, jetant son pardessus et son paletot sur la neige, il frappait le plus proche de ses meurtriers d'un coup de son terrible poing et l'envoya rouler saignant dans la neige. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il avait appliqué son terrible poing sur les nez saignants ou les yeux pochés d'une demi-douzaine de ses cruels et aveugles compatriotes catholiques romains. Et qui ne bénira pas le Seigneur avec moi aujourd'hui quand je dirai que cet acte fut applaudi de la plupart de ceux qui étaient là? Les héroïques serviteurs du Christ, meurtris et saignants, purent alors ramasser leurs habits en lambeaux et s'enfuir le plus vite possible vers leur demeure. Alors, tombant sur leurs genoux, ainsi que je l'appris 10 ans plus tard de leurs propres lèvres, ils élevèrent leurs mains suppliantes vers le siège de la miséricorde divine et dirent au Sauveur, autant avec leur sang qu'avec leurs lèvres, « Cher Sauveur, tu vois nos cœurs meurtris et nos blessures saignantes, et tu connais celui qui est la cause de nos souffrances. Nous te supplions de jeter des regards de miséricorde sur lui. Montre-lui l'erreur de ses voies, donne-lui la lumière de l'Évangile afin qu'il puisse te connaître et t'aimer comme son seul Sauveur. Change cette pierre du désert en un enfant d'Abraham. Accorde-lui de voir les chaînes ignominieuses qui le retiennent au pied des idoles de Rome, afin qu'il puisse venir avec nous inviter ses pauvres compatriotes canadiens à t'accepter comme leur Sauveur et leur espoir pour le temps et pour l'éternité. » Et Dieu soit béni. les prières de ces héroïques martyrs modernes furent exaucées au trône de la miséricorde. Il n'y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit que dans l'admirable providence de Dieu, je dois ma conversion aux prières ardentes de ces six humbles mais admirables chrétiens qui avaient été si cruellement battus à mon instigation en janvier 1846 à la porte de l'église de la Pointe aux Trembles. Je passai la nuit qui suivit cet acte abominable et honteux au presbytère de Longueuil, où je demeurai alors avec mon intime ami M. Brassard. Ce fut une nuit blanche pour moi. J'étais à peine au lit qu'une voix plus terrible que le grondement du tonnerre se mit à crier dans mon âme. « N'as-tu pas honte de ce que tu as fait aujourd'hui ?» Bien que, par un vrai miracle, ces hommes honnêtes et sans défense n'aient pas été tués, le sang qu'ils ont perdu, les cruelles blessures qu'ils ont reçues, crient vengeance au ciel contre toi. Pour faire taire cette voix et m'excuser à mes propres yeux, je me levai deux ou trois fois pour lire les livres théologiques de mon église et voir de nouveau ce qu'elle enseignait sur le droit accordé aux catholiques romains de persécuter les hérétiques. Je lus dans Thomas d'Aquin, volume 4, page 991, que non seulement nous ne devons pas les tolérer, mais que nous devons les livrer entre les mains du bras séculier pour qu'ils soient exterminés. En lisant ces enseignements des meilleurs théologiens de mon église, qui étaient unanimes à m'affirmer que les hérétiques n'ont pas le droit de vivre, je me persuadais qu'après tout, je n'avais commis aucun péché, puisque nous n'avions fait que battre ceux que nous avions le droit de tuer. Ce fut alors que, pour la première fois, j'entendis une nouvelle voix au-dedans de mon âme, voix qui me causa une angoisse indicible depuis ce jour jusqu'à celui de ma conversion. Ne vois-tu pas que dans l'Église romaine, on ne se conforme pas à la parole de Dieu, mais qu'on suit les traditions menteuses des hommes ? C'était la première fois de ma vie que la suggestion d'abandonner l'Église romaine venait frapper mon esprit avec force. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que toutes les puissances de l'enfer s'étaient combinées pour me perdre. Je tombai à genoux et priai Dieu de faire taire ces voix qui ébranlaient ma foi. Du fond de mon cœur, je jurais que je vivrais et mourrais dans l'Église catholique hors de laquelle, je le croyais alors sincèrement, il n'y a point de salut. Mais, pour me prouver encore une fois à moi-même que j'avais bien fait de châtier des hérétiques et que ma Sainte Église avait raison de nous enseigner à les haïr, à les maltraiter et à les tuer, je pris ma Bible pour trouver quelques textes qui me montreraient que tels étaient bien les enseignements de l'Écriture. Où puis-je trouver des expressions assez fortes pour exprimer ma surprise et mon émotion quand, en ouvrant le livre divin, mes yeux tombèrent sur ces paroles de Luc chapitre 9. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchait, il se mit en chemin avec un front résolu pour aller à Jérusalem. Elle y envoya des gens devant lui pour annoncer sa venue qui, étant partis, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais les habitants de ce lieu ne voulurent point le recevoir parce qu'il leur paraissait qu'il allait à Jérusalem. Ce que Jacques et Jean, ses disciples ayant vu, ils lui dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et qu'il les dévore ?» Mais se retournant, il leur fit cette réprimande et leur dit « Vous ne savez point de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver. » J'avais à peine fini de lire cette dernière phrase qu'une voix plus formidable qu'aucun coup de tonnerre que j'ai jamais entendu vint frapper mes oreilles et me dit « Ne vois-tu pas que dans ton église, on ne se conforme pas à la parole de Dieu, mais aux traditions menteuses des hommes ? Où tes papes et tes théologiens ont-ils puisé le droit de punir, de battre, d'emprisonner et de tuer les hérétiques quand le Christ dit justement le contraire ?» Que pouvais-je répondre à ma conscience troublée lorsque j'entendais ces terribles reproches tomber des lèvres même du Christ? Je me sentais écrasé et plus que jamais perplexe. Au déjeuner, le matin, M. Brassard me dit « Vous avez les yeux enflés comme si vous aviez passé la nuit à pleurer. Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Vous ne vous trompez pas quand vous pensez que j'ai pleuré la nuit dernière, » lui répondis-je. « Je viens de passer par les plus terribles moments de ma vie. » Le cruel traitement infligé à ces pauvres hommes sans défense s'est présenté à mon esprit et à ma conscience pendant toute la nuit sous des couleurs telles que j'ai vraiment horreur de moi-même. Afin de faire taire la voix de ma conscience coupable, je me suis levé plusieurs fois pour lire les ouvrages de nos théologiens les plus estimés et les plus savants. Naturellement, je les ai trouvés unanimes à m'enseigner que les hérétiques sont indignes de vivre, qu'ils n'ont aucun droit que nous soyons tenus de respecter, que c'est le droit de l'Église catholique de les livrer aux bras séculiers pour qu'ils soient exterminés, enfin qu'il est défendu de leur parler, d'avoir aucun commerce avec eux et de les encourager d'aucune manière. Dans votre volume de droit canon, j'ai lu de nouveau que non seulement ce n'est pas un péché de tuer un protestant, mais qu'une si belle action obtient au meurtrier l'assurance du pardon de tous ses péchés. Il y a plus, j'ai trouvé que quand un catholique tue un protestant, il ne commet pas un meurtre. Mais tout cela n'a pas fait taire la voix de ma conscience. Car à ma grande confusion, mes yeux sont tombés sur le 9e chapitre de Luc où notre Seigneur est absolument en opposition avec les doctrines et la pratique de notre Église sur ce sujet. Alors, une voix plus terrible que le tonnerre a secoué tout mon être en criant à mes oreilles « Ne vois-tu pas que dans ton Église, on ne suit pas la parole de Dieu, mais les traditions menteuses des hommes ?» Que pouvais-je répondre quand ma conscience me disait que c'était la vérité, la triste vérité ? Mais comment puis-je vous dépeindre ma détresse et ma désolation quand il me semblait que Dieu lui-même et tous ses anges me criaient « Sors, sors de cette église de Rome dont les mains sont rougies du sang des 10 millions qu'elle a massacrés pour établir son pouvoir sur ce monde esclave, aveugle et misérable. » Monsieur Brassard me répondit « Mon cher Shiniki, dans l'espoir, ou plutôt avec l'assurance, que vous ne me trahirez jamais, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre pauvre église de Rome que je ne crois pas, car elle me semble contredire non seulement les enseignements de l'Évangile, mais encore les données du sens commun. Le droit que notre Église s'arroge de commander au pouvoir civil de prendre, brûler, torturer et tuer les hérétiques ne peut venir du Christ. Je suis toujours navré quand je lis les pages sanglantes de notre histoire ecclésiastique qui nous raconte comment elle a rempli ses donjons, non seulement de milliers, mais des millions d'honnêtes gens et de pieuses femmes qu'elle a laissé mourir de faim ou qui ont souffert des tortures capables de faire horreur aux sauvages des forêts vierges. C'est un fait que notre Église a mis à mort des millions de protestants parce qu'ils ne pouvaient croire certaines doctrines que, sagement ou non, Dieu le sait, ils pensaient contraires aux saintes Écritures. Dans mon esprit et ma conscience, c'est une tache si noire sur le fond de notre Église que toutes les eaux de nos vastes fleuves et de l'océan sans fond ne pourrait la faire disparaître. Je vous le dis franchement, mon cher Shiniki, loin de vous admirer ou de vous approuver, hier, quand vous me dites comment vous avez fait battre ces braves protestants honnêtes, bien que dans l'erreur, je vous condamnais silencieusement et du fond de mon cœur. Continuez à répandre vos admirables vues sur la tempérance, mais laissez les protestants tranquilles. Convertissez-les, si vous le pouvez, avec des arguments spirituels, mais abandonnez pour toujours l'idée que nous, catholiques romains, nous avons le droit de les battre ou de verser leur sang parce qu'ils ne peuvent pas voir beaucoup de choses comme nous les voyons. » En prononçant ces dernières paroles, la voix de mon noble ami tremblait. Oui, il avait les larmes aux yeux et il était incapable de cacher son émotion. Il quitta brusquement la table et s'enfuit dans sa chambre. Ce reproche amical trouva un tel écho dans ma conscience troublée que je restais muet et montais à mon tour à ma chambre. Mais quand je me levais de table pour me retirer, la voix faisait de nouveau retentir à mes oreilles ces paroles. « Ne vois-tu pas que dans ton église de Rome, l'on ne suit pas la parole de Dieu, mais les traditions menteuses des hommes ?»